Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h et de plus en plus nombreux. Merci les audiences qui viennent de tomber ce matin pour la partie culture de l'émission. Avec Patrick Chesnais, il va venir nous parler de la pièce Le système ribadier au bouffe parisien et de son livre La vie est belle, je me tue à vous le dire, quel beau titre. Et puis dans les indispensables, une série couronnée de succès au dernier Golden Globes, pardon, et la plus grande histoire de super-héros jamais écrite. Bonjour Lise Pressac.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, Marguerite Lefebvre l'a dit, c'est tombé il y a quelques minutes. Le réalisateur Christophe Rougia est en garde à vue dans l'affaire Adèle Haenel. Et Marguerite l'a un peu évoqué, vous démarrez votre journal de la culture par une annonce. On connaît désormais le directeur du jury du prochain Festival de Cannes.
Oui, ce sera Spike Lee, le seul réalisateur afro-américain à avoir été sélectionné en compétition à Cannes, qui devient donc le premier président noir du jury en 73 ans de festival. Un artiste engagé, écoutez Thierry Frémaux, dès délégué général du festival.
Rien ne nous fait peur, la liberté d'expression c'est une chose importante, mais en effet avec lui on prend un certain nombre de risques, qui d'ailleurs ne s'avéreront peut-être pas réels, hein. Mais c'est vrai que vous, journalistes, vous avez eu parfois à endurer certaines de ces foucades, mais en l'occurrence, non, il m'a promis qu'il serait gentil comme tout, il termine tous ses emails par peace and love, et donc il n'y a pas de raison de ne pas en accepter l'augure, et d'ailleurs de ne pas se dire qu'il faudrait aussi que, pas seulement dans le monde, mais en tout cas au Festival de Cannes, on soit tous un peu peace and love.
Voilà, un peu peace and love. Les noms des 6 membres du jury seront annoncés à peu près en même temps que la sélection officielle à la mi-avril. Le Festival de Cannes aura lieu du 12 au 23 mai.
Autre nomination attendue, Lise, celle des Oscars.
Et sans surprise, le film Joker de Todd Phillips part archi favori avec 11 nominations, nommées dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, meilleur scénario adapté et dans plusieurs catégories techniques. Joker suivi de près par 3 autres films qui comptabilisent chacun 10 nominations, de Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes dont Mathieu Charrier nous parlait hier. Ouais. Et Cocorico, il était attendu, il n'a pas été oublié.
And the nominees are Corpus Christi, Poland. Les Misérables, France. And Parasite, South Korea.
Voilà, Les Misérables, Friends, ouais. Les Misérables de Lajli est donc nommé dans la catégorie meilleur film étranger face à un adversaire de taille, Parasite de Bong Joon-ho, le prix du jury à Cannes face à la Palme d'Or. Et il ne faut pas oublier les 3 autres films français nommés. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin dans la catégorie meilleur film d'animation, Nefta Football Club de Yves Pia, catégorie meilleur court-métrage, et Mémorable de Bruno Collet, catégorie meilleur court-métrage d'animation. Sans oublier le compositeur français Alexandre Desplat, 11 fois nommé, 2 fois oscarisé. Il concourt cette année pour la musique des filles du Docteur March de Greta Gerwig. Résultat des courses de cette 92e édition des Oscars le 9 février.
Alors aux États-Unis, il y a les Oscars et en Grande-Bretagne, il y a les BAFTA.
Oui, ils ont lieu quelques jours plus tôt, le 2 février. Ils sont critiqués pour leur manque de diversité. Le réalisateur britannique Steve McQueen, à qui l'on doit 12 Years a Slave, accuse ainsi la British Academy of Film and Television Arts de négliger les talents noirs. Cette année, seuls des acteurs blancs ont été nommés, comme ce fut déjà le cas en 2015 et 2016. Dans les colonnes du Guardian, le réalisateur raconte qu'il faut trop souvent aller aux États-Unis avant d'être reconnu dans son propre pays. Lui n'avait pas été oublié pour 12 Years a Slave. Steve McQueen avait reçu en 2014 le BAFTA et l'Oscar du meilleur film. Les Oscars qui d'ailleurs au passage ne sont pas beaucoup plus vertueux. Une seule actrice noire est nommée cette année, Cynthia Erivo, pour son rôle dans Harriet, film historique sur le racisme et l'esclavage aux États-Unis.
Alors vous nous parliez de Joker tout à l'heure. Oui. L'acteur du film Joaquin Phoenix a été arrêté lors d'une manifestation.
Oui, vendredi dernier, il a participé à Washington au Fire Drill Fridays. C'est un rassemblement contre le changement climatique organisé par Jane Fonda et qui, comme son nom l'indique, a lieu tous les vendredis et ce depuis le mois d'octobre. Une manifestation considérée comme illégale qui se termine souvent par des arrestations. L'actrice Jane Fonda, 82 ans, finit ainsi quasiment chaque semaine menottée. Vendredi dernier, ils ont été une centaine ainsi arrêtés parmi Joaquin Phoenix, mais aussi Martin Sheen et Suzanne Sarandon.
Oh, dis donc, le casting du film, oui. Il y a des producteurs qui doivent dire, j'aimerais bien l'avoir, celui-là est gratos en plus. On poursuit ce journal avec l'adaptation en France du show le plus primé de Broadway.
Oui, la comédie musicale Les Producteurs, d'après le film culte de Mel Brooks, va être adaptée au théâtre par le metteur en scène Alexis Michalik.
The producer could make more money with a flop than with a hit.
We've got to find the worst play ever written.
Picks the wrong play, the wrong director, the wrong cast. Where did I go right?
C'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Broadway, sorti au cinéma en 1968, Oscar du meilleur scénario. Le film raconte l'histoire de deux escrocs qui décident de monter une comédie musicale à la gloire d'Hitler, en espérant faire un flop et toucher ainsi l'argent des assurances. Un film devenu une comédie musicale en 2001 et qui est à ce jour le spectacle le plus primé de Broadway avec 12 Tony Awards. La comédie musicale sera jouée pour la première fois à Paris à partir de septembre au Théâtre de Paris. Alexis Michalik s'est associé à Stage Entertainment qui a déjà monté de nombreux spectacles musicaux dans la capitale comme Le Roi Lion, Mamma Mia, Le Fantôme de l'Opéra ou encore Chicago. Et en attendant septembre 2020, vous pouvez aller voir la toute nouvelle pièce d'Alexis Michalik, Une histoire d'amour. C'est en ce moment à la Scala Paris.
Et malheureusement, il n'est pas simple de remplir les théâtres par temps de grève.
Non, Le Parisien y consacre d'ailleurs une double page ce matin. Salle à moitié vide, pièces arrêtées beaucoup plus tôt que prévu. Comme Le Dindon par exemple de Feydeau au Théâtre de Jazet. En moyenne, la salle n'était remplie qu'à 20%. Il va donc s'arrêter samedi. À la Comédie Française, les trois quarts des représentations de la salle Richelieu ont été annulées entre le 5 décembre et le 31. Perte estimée 20 000 euros par représentation, soit 600 000 euros au total depuis le début de la grève. Même constat du côté du Cirque Bouglione qui accuse 900 000 euros de pertes. Résultat, de nombreux théâtres soldent leur place en ce moment entre moins 20 et moins 40%.
Et il faut en profiter, c'est justement ça la bonne nouvelle. Merci beaucoup Lise Pressac, à demain.
À demain.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Patrick Chesnais.
Bonjour Patrick Chesnais.
Bonjour.
Acteur, réalisateur, 50 ans de carrière, voire même peut-être 51, voire même peut-être 52. Une cinquantaine de pièces. Non, justement, vous ne vous calmez jamais. Et c'est aussi pour ça qu'on vous aime, une soixante-dizaine de films. Je ne sais pas si c'est à 90 films, Le Scaphandre et le Papillon, Je ne suis pas là pour être aimé. César, du meilleur second rôle pour La Lectrice en 89. Et là, vous serez tous les soirs. À partir du 22 janvier au Bouffe Parisien avec un Feydeau. Et quel Feydeau ? Le système Ribadier, pour qui ne connaîtrait pas, c'est quoi l'intrigue ?
L'intrigue, c'est, vous savez, comme dans Feydeau, c'est plusieurs intrigues qui se chevauchent, qui s'entrecoupent. C'est l'histoire d'un type qui, pour tromper sa femme, a recours à l'hypnose.
Ouais. Parce qu'elle est très jalouse. Elle était avec un précédent mari,
qui
l'a trompée du matin au soir.
Quasiment tous les soirs.
Voilà.
Elle sort d'un premier mariage où c'était pareil. Et arrive un type que je joue, qui est amoureux de cette femme depuis très longtemps, qui fait une espèce de fixation, d'obsession amoureuse. Et qui, par respect pour son ancien mari, a pris des distances, on va dire, est parti de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de l'eau, comme il dit, à Batavia. Ouais. Et qu'il revient puisque son mari est mort et qu'il va pouvoir donc finaliser. Mais elle se dit, je suis mariée à nouveau. Donc ça explose dans tous les sens et c'est une succession de...
Vous savez, sauf que le nouveau mari, parce que c'est là où c'est Feydeau et donc c'est toujours plus compliqué que ce qu'on avait imaginé au départ, c'est que le second mari donne à l'ami, dont il ne sait pas qu'il risque d'être l'amant, la clé du système.
Oui, c'est ça.
Et donc l'autre maintenant sait... qu'on peut l'endormir, la réveiller, et qu'il y a l'hypnose là-dedans.
Vous avez très bien lu la pièce.
Elle est connue cette pièce, c'est un classique.
Non, c'est un classique de Feydeau. Ouais. Vous savez, dans Feydeau, l'ADN de Feydeau, c'est qu'à chaque moment, ça doit être drôle.
Ouais.
Alors parfois, il oublie un petit peu même l'intrigue, il s'en fout, ça devient secondaire. Mais chaque moment, chaque réplique est là pour faire rire, pour déclencher le rire. Et donc, il faut un petit peu s'y retrouver là-dedans, un peu les acteurs, parce qu'on est propre pulsé vers le rire, et puis il faut être à la hauteur de Feydeau.
Hein. Ah non, on n'oublie pas le texte.
Ah bah non, le texte, c'est la référence.
On oublie l'orthodoxe du texte, ça que je veux dire.
Non, on peut aussi s'approprier le texte. Vous savez, parfois Feydeau, par moment, c'est un peu une langue étrangère du 19e siècle, il y a des expressions qui, parfois, il faut un peu respecter parce que c'est un peu folklorique, c'est rigolo, c'est marrant, c'est des cocottes, c'est la bourgeoisie de la fin du 19e. Puis par d'autres moments, il faut changer un petit peu parce qu'il faut qui a un impact sur le public. Feydeau recherchait constamment la drôlerie. Son truc, c'était il faut que ça soit drôle tout le temps. Mais à force de vouloir être drôle tout le temps, il y a un moment je dis pas qu'on s'y perd, mais que c'est à nous aussi de prendre ça en charge et d'essayer d'être drôle tout le temps. Mais essayer d'être drôle tout le temps, c'est assez compliqué.
Alors, c'est mis en scène.
Mais on y arrive.
C'est mis en scène par Ladislas Chola, sauf qu'il y a une surprise. C'est que, pardon de faire référence à votre année de naissance, mais je ne vais pas la dire. Vous n'incarnez pas Ribadier, le mari, c'est Pierre-François-Martin Laval, mais l'amant.
Oui.
Normalement, c'est pas comme ça chez Fedot.
Qu'est-ce que vous avez...
Bah normalement, le mari, c'est le plus âgé. Pardon de vous dire ça, Patrick Chenet.
Quoi, vous voulez refaire la mise en scène?
Non,
voulez...
non, mais pourquoi ce choix
pour faire le rôle?
Non, pas du tout.
Si, si, je sens. Que... Bah écoutez,
oui, j'ai réussi à faire rire Céline. Ouais,
je
allez-y.
Me suis posé la question.
C'est vrai.
Je me suis dit, putain, je joue encore les amants à mon âge. Les et vous amants
avez
conduit.
Et vous avez 30 ans de plus que le mari. C'est
bah
quand même
oui,
pas courant.
Oui, 30 ans de plus que le mari. Mais alors, je vais vous dire une chose aussi, c'est-à-dire que les... dès que dans le cinéma on trouve on cherche une personne du troisième âge, enfin, disons, quelqu'un de, qui a quand même vécu, qui a une... voilà.
Mais qui est encore séducteur.
Mais qui a encore de la séduction et qui couche, par
ouais,
exemple.
Ouais.
Et ben, j'en reçois le scénario.
C'est formidable,
donc,
quand même.
Peut-être que, vu mon grand âge, il y a quand même quelques éléments qui font que je peux être crédible là-dedans. Je sais pas. C'est pas à moi d'en juger.
C'est quoi la jeunesse de la pièce? C'est Ladislas Chola qui vous appelle et qui dit « Tu vas faire ça, mais tu vas faire l'amant » ou c'est vous qui dites « Je fais la pièce, non, mais bah, je vais être l'amant » Comment ça se goupille, ces choses-là?
Non, ça se goupille. Bon, vous savez, il y a plein de possibilités.
Mais là, en l'occurrence, comment
d'abord,
ça s'est passé?
D'abord, c'est le producteur qui m'a dit... le producteur voulait que je joue... m'avait donné les clés du théâtre de la Michaudière en me disant, voilà, on va trouver une pièce, tu vas trouver une pièce. Et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé une pièce moderne qui me plaisait. Il y avait une pièce corse qui était vachement intéressante, mais que je n'avais pas envie de faire. Et à un moment, j'ai parlé d'un Fedot. Et il m'a dit, bah justement, on en monte un, mais c'est, je crois que c'est Berléand qui devait le faire au départ. Mais voilà, non, bon, c'est comme ça que ça se fait. Hein. Et puis après, il m'a dit, voilà, Lila, et j'ai trouvé que le rôle auquel il pensait pour moi était quand même peut-être le rôle le plus drôle de la pièce. Donc, je n'ai pas longuement hésité, malgré
donc,
mon
c'est
grand
le,
âge.
Donc, c'était ma question, c'est le producteur qui a dit, tu vas faire l'amant.
Il ne m'a pas dit, tu vas faire l'amant, il m'a dit, est-ce que ça te plairait de faire l'amant?
D'accord.
C'est, comme, c'est dans ces termes-là que ça se...
C'est une comédie.
Est-ce que ça t'intéresserait?
Ribadier, comédie en trois actes, enfin, le système Ribadier, pièce créée en 1892. Est-ce qu'elle a encore quelque chose d'actuel? Ou est-ce que c'est juste, comme vous le disiez, rire pour faire rire?
Bah, rire pour faire rire, c'est déjà pas mal.
Ah, ça, c'est
hein.
sûr, c'est donné à très peu. Hein.
Bah, quelque chose d'actuel, je ne sais pas. Elle est actuelle dans le sens où c'est nous qui la jouons.
Ouais.
Et qu'il y a une espèce de modernisme chez les acteurs, de proximité qu'on essaye d'avoir avec le public, avec les gens qui vont venir nous voir. On est là dans la phase de construction, la dernière ligne droite avant de passer au public. Et c'est aussi avec le public qu'on va organiser la force de la pièce et le rire aussi. C'est le public qui nous raconte l'histoire aussi.
Le public, ça sera à partir du 22 janvier, mais vous restez avec nous jusqu'à 11h.
C'est Patrick Chenet qui est notre invité. On continue à parler de sa riche actualité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Patrick Chenet qui est notre invité ce matin. Il sera à partir du 22 janvier au Bouffe Parisien pour un Fedot, le système Ribadier, où il joue le rôle de l'amant, Philippe.
Vous êtes client de ce genre de théâtre, Patrick Chenet, Fedot, ou est-ce que c'est seulement un immense plaisir à jouer?
L'un est...
Ah, je suis pas d'accord. Moi, je joue de la musique, je vous donne un exemple. Ouais. J'adore jouer du reggae et je déteste en entendre. Comme le blues.
Ah oui. Ah, je comprends. Alors, en tant que spectateur, je suis pas sûr que je vais voir des Fedot
voilà.
tout le temps. En même temps, j'ai vu le Fedot monté par Zabou, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Hein. Ouais.
Je crois que c'est... De toute façon, Fedot était un type totalement dépressif. C'était un acteur... un peu raté, qui
ouais.
S'est penché vers l'écriture, il faut bien faire quelque chose, il faut
ouais.
bien vivre, etc. Puis parce que ça a marché considérablement, c'est devenu une espèce de référence d'alpha-oméga, comme on dit, du théâtre de boulevard,
ouais.
du théâtre de divertissement, du théâtre burlesque, de la folie burlesque. Parce que ce qui caractérise le théâtre de Fedot, c'est sa folie constante, c'est la recherche du plaisir, de la drôlerie constante. Il n'y a pas d'autre. Mais en même temps, qu'il le veuille ou non, il avait un style, il avait quelque chose qui fait que quand on lit une pièce de Fedot, on sait tout de suite que c'est Fedot à la première ligne. C'est
exactement. Et quand une pièce n'est pas très bien écrite ou qu'elle n'est pas très bien rythmée, on dit, bah, disons, c'est pas du Fedot. Hein.
Voilà.
Actu du théâtre, il y a une double page ce jour, un peu tristouille dans Le Parisien, sur la fréquentation des théâtres qui sont en berne depuis le début du mouvement de grève.
Oui.
Lise Pressac en parlait dans le journal de la culture, les salles parfois vides, enfin à moitié vides ou un quart vide, les représentations qui s'arrêtent plus tôt que prévu, la Comédie française qui accuse 600 000 euros de pertes, ça vous inspire quoi? J'imagine que ça vous désole ou est-ce que vous dites que c'est juste un petit moment passager?
Ça remonte, j'ai vu les chiffres un peu de façon quotidienne, là, ça
ouais.
remonte, ça commence à reprendre, heureusement. Oui, bah, ça m'inspire quoi? Je ne sais pas, je suis effondré. Parce qu'il n'y a pas que nous. Hein.
Oui, bien sûr.
Il y a
les restaurateurs.
Toute l'économie, une grande part de l'économie française qui est atteinte. Je pense que si j'ai bien compris, on va bien s'en sortir quand même. Il y a, les clignotants sont un peu au vert dans tout ce qui est le taux de croissance, etc. Je crois, je ne suis pas un grand spécialiste, il ne faut pas trop me poser de questions.
Mais en dehors du taux de croissance, enfin, si le métro est fermé, les gens ne peuvent plus rentrer chez eux. Et donc, du coup, ça grève le budget puisqu'ils doivent prendre un taxi.
Je suis d'accord.
Voilà.
Oui, je suis d'accord.
Donc, c'est vrai qu'il y a une très bonne chose.
Ah, oui, non, mais,
il faut le dire. Les salles baissent leurs prix en ce moment, donc profitez-en, allez au théâtre.
Non, mais ça remonte là, on tient le bon bout, je crois.
Vous avez démarré le théâtre il y a combien de temps ?
Oula, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, 50.
Ouais, et comment vous expliquez que l'envie de monter sur les planches vous soit intacte à 72 ans ?
Mais...
Quelle énergie !
Merci d'avoir précisé mon âge.
Je vais vous dire pourquoi je précise votre âge, parce qu'il y a une deuxième question qui arrive derrière.
Ouais, d'accord, ouf. Alors, vous savez, chaque pièce, chaque entreprise, chaque spectacle, on va dire, est une aventure en soi. Moi, je suis en recherche d'aventure.
Ouais.
La vie est une aventure et si on n'est pas dans une aventure ou cinématographique, ou le théâtre, c'est très fort, c'est très puissant. Hein. On, je ne sais pas si on s'embête, mais on pense...
Vous pourriez partir à la retraite, dans votre maison de l'île de Ré.
Partir où ?
Dans votre maison de l'île de Ré.
Maison de l'île de Ré, parfois je m'emmerde beaucoup. Hein.
Je veux dire le sens de ma question. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces jeunes qui manifestent dans la rue pour pouvoir partir, pas trop vieux en retraite, en tout cas avant 64 ans ?
Moi je découvre ça. Si, moi j'ai un statut particulier. Moi à 18 ou 20 ans ou 23, je ne pensais pas du tout à la retraite. Je pense que les jeunes non plus ne pensent pas à la retraite. Je crois qu'il y a une espèce de mouvement un peu idéologique, de dynamique de la révolte qui est l'ADN français. Vous savez, j'ai fait 68. Moi, je ne savais pas exactement pourquoi je le faisais,
Vous avez fait 68 parce que vous en parlez dans votre bouquin qui vient de sortir aux éditions de l'Archipel. Ça s'appelle « La vie est belle, je me tue à vous le dire ». Alors moi, je vais vous dire, j'ai pris ce livre comme ça au pif, j'ouvre, je lis un passage, bim, c'est top. Deuxième passage, c'est top. Troisième passage, c'est top. Et je me suis dit, c'est formidable, faut que j'en parle. Pourquoi ce titre ? Pourquoi se tuer à dire que la vie est belle, Patrick Chesnais ?
Parce que la vie est belle, et parfois c'est pas évident. Donc il faut insister pour se rendre compte que la vie est belle, par moments, pas toujours.
Vous trouvez du plaisir
et
partout.
Je trouve que c'est un titre d'un poème de Prévert qui m'a bien plu. La vie est belle, je me tue à vous le dire, dit la fleur et elle meurt.
Magnifique. Ça part vraiment dans tous les sens. Par exemple, dans un des premiers chapitres, pardon de sourire, on vous change votre télé et là, c'est le drame. Vous écrivez « Je contemple sa face arrière », donc celle qui va partir, la télé qui va partir. « Je contemple sa face arrière, je pense qu'elle a un beau cul. » Vous pensez vraiment qu'une télé peut avoir un beau cul ?
Mais c'est l'image qui m'est venue, je peux pas, donc je la raconte, j'aurais pu ne pas la raconter, mais c'est venu comme ça, vous savez, le stylo glisse, les choses viennent, c'est un peu une espèce, c'est l'inconscient un peu qui s'exprime aussi, l'envie, l'humeur.
Vous savez que parfois on peut couper ce qu'on vient d'écrire,
hein.
Vous savez que parfois on peut couper ce qu'on vient d'écrire.
J'en ai coupé à moitié quand même.
Oh là là, j'aimerais bien lire les coupes, vous restez avec nous, on va rien couper parce qu'on est en direct.
Oui, dans un instant avec notre invité Patrick Chesnais, on découvrira nos indispensables du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure de nos indispensables du jour. On va les découvrir dans un instant avec Clémence Olivier et Clément Le Saffre. En présence de notre invité, Philippe, c'est Patrick Chesnais qui nous a rejoint ce matin. Il sera à partir du 22 janvier au Bouffe Parisien pour un Fedo, le système Ribadier. Il vient également de sortir un livre qui s'appelle La vie est belle, je me tue à vous le dire, aux éditions Archipel.
Et alors, vous défendez dans le livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'à chaque fois, on est surpris. Chaque page, on se dit waouh, mais où est-ce qu'il nous emmène ? Alors, par exemple, vous défendez, ce sont des tout petits chapitres d'une page, de deux pages, de quatre ou cinq. Vous défendez des gens que le politiquement correct, ou en tout cas la profession, les professionnels de la profession, comme disait Godard, n'ont pas l'habitude de défendre. Par exemple, vous défendez Coé et Pascal Praud.
Mais oui.
Et pourquoi ce petit chapitre sur eux ?
Parce que c'est venu comme ça. Parce que j'ai fait l'émission de Coé, que j'avais fait des émissions avec lui à la télé à une époque. Et c'est un type que j'aime bien, qui est d'une gentillesse extrême, qui est très doué, qui est très marrant, qui organise un bordel mais total et absolu dans son studio. Les mecs sont plus ou moins bourrés, je sais pas.
Ah oui ?
Mais malgré tout, on s'y sent bien. Ouais. Là-dedans, c'est vrai que j'en parle en disant que j'étais l'idiot utile. Quoi. Ouais. J'étais le mec qui arrive, qu'est-ce que je fous là, toi ?
Ouais.
Et puis non, j'aime bien le type.
Et Pascal Praud ?
Pascal Praud, je trouve que dans ce pathétisme des télés d'infos continues, où c'est irregardable et inécoutable, d'une façon générale. Et puis les mecs, maintenant, ils essayent de faire le show, ils essayent d'être drôles en commentant l'actualité. Il faut arrêter. C'est très angoissant. Et Pascal Praud, il est chez lui. Il est dans son studio, il n'a rien à foutre des caméras, et avec ses potes de gauche et ses potes de droite, il déconne. Et moi, j'aime bien. Je suis allé faire son émission 2-3 fois, et j'aime bien ce type qui vient du sport, qui vient du football, et qui brusquement a un avis sur tout. Oui, il n'est pas dans le politiquement correct, oui, c'est sûr.
C'est justement pour ça que ça m'a frappé, c'est ce qui m'a intéressé.
C'est intéressant. Ouais.
Alors parfois, vous ne gênez pas pour tailler, même des réalisateurs confirmés, même des réalisateurs avec qui vous avez tourné. Alors écoutez bien ce qu'écrit Patrick Chesnais sur Luc Besson, c'est page 152. Cette fois, il s'agit de la 3e saison de Nos Limites, série d'action et de cascades sur TF1. De gros moyens, mais avec des scénarios et des dialogues au bout de la déprime. Mais les scènes d'action sont bien faites, voire spectaculaires, et c'est bien payé. Je me suis dit, il va être content de lire ça à Luc Besson.
Ben non, bon, on a vu d'autres. Hein. On est des aventuriers. Hein.
Non, mais des scènes au bout de la déprime quand même, franchement.
Mais ça va au bout de la déprime, bah oui. Non, mais c'était simplement que des cascades avec des, vous savez, des trucs un peu TF1 plaqués, ouais. des trucs un peu très, très vulgaires dans les sentiments, très plus belle la vie, quoi. Ouais. Enfin, des trucs pour moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, je m'en fous. Simplement, c'était très, très, très bien payé. C'était 5 mois à Marseille. Ouais. Et puis, il y avait Claude Brasseur dans la distribution que j'aime bien.
Bon, et puis, ils vont être aussi content de vous entendre, les scénaristes de Plus belle la vie. Nos oui. indispensables, bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et vous allez nous parler de super-héros.
Ouais, et l'une des, si ce n'est finalement la plus grande histoire de super-héros jamais écrite, c'est Watchmen, un roman graphique qui est sorti en 1986.
J'adorais ça.
Et qui est en train d'être réédité en ce moment même par Urban Comics.
Réédité, pourquoi on ne le trouvait plus? Alors je vais vous dire, moi j'ai l'intégrale, j'ai les 6 ou 8 ou 12 premiers qui m'avaient été recommandés par Doug Edline à l'époque, ça se fait plus?
Alors, on trouvait la version uniquement intégrale, c'est celle que j'ai ramenée aujourd'hui avec moi, voilà, hop, vous le pouvez l'avoir, sacré pavé, 400 pages, plus de 2 kilos à la pesée, j'ai vérifié ce matin, ouais. Et au bout d'un quart d'heure de lecture, bah, faut le dire, bonjour la crampe, c'est pas facile du tout à lire. Et là, et bah, cette nouvelle édition, elle est décomposée, c'est-à-dire qu'ils ont coupé tout ça en 12 tomes, il y a 12 chapitres dans Watchmen, ils ont donc fait 12 petits tomes, ils sont tout petits, à 30 pages, ouais. 4,90€ par tome, et c'est comme ça en fait que Watchmen a été publié à l'origine, 12 chapitres de 30 pages. Donc c'est parfait en fait, cette nouvelle édition, pour ceux qui n'ont jamais lu Watchmen, il faut lire Watchmen, hein. Ça permet en fait de rentrer plus facilement dans l'histoire, hein, sans se décourager effectivement, quand on regarde ça, on se dit... je suis pas sorti de la lecture.
Ou alors faut que je fasse de la muscu.
Ou alors faut faire de la muscu. Là, voilà, on peut se dire qu'on peut commencer, lire un chapitre après l'autre et rentrer pleinement dans cette histoire assez
alors,
folle.
Qui ne connaît pas, qu'est-ce que ça raconte?
On est dans les années 80, la menace d'une guerre nucléaire est imminente. Alors à New York, les Watchmen, c'est un groupe de super-héros très hétéroclites, eh bien, ils s'organisent pour déjouer cette menace. Il y a là donc le comédien, c'est la star du groupe. Il y a Rorschach, qui est un justicier solitaire. Il y a le docteur Manhattan, qui est un surhomme tout bleu, qui a été exposé à des radiations. Il y a le hibou qui lui est très intègre, il y a Ozymandias qui est doté d'une intelligence supérieure, qui est un peu le chef spirituel du groupe, et le spectre soyeux, la seule femme qui est un peu malmenée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne s'entendent pas très bien tous, la preuve avec cet extrait de l'adaptation en film qui a été réalisé par Zack Snyder, c'était en 2009.
La vraie blague, c'est les gardiens. Ça n'a pas fonctionné il y a 15 ans, ça marchera sûrement pas plus maintenant, juste parce que vous avez envie de jouer aux cow-boys et aux indiens.
Nous pourrions faire tellement plus. Nous pourrions sauver ce monde. Avec un vrai... chef aux commandes.
Et ce serait toi, pas vrai, Ozzy? C'est vrai, après tout, t'es l'homme le plus brillant de la planète.
Il faut pas être un génie pour voir que le monde a des problèmes.
Sauf que ça prend une bande de crétins pour croire qu'ils sont assez petits pour que tu puisses les régler.
Super ambiance, et je connais vos goûts maintenant, Clément. Vous n'aimez pas plutôt les super-héros classiques?
Non, absolument, et c'est pour ça que moi j'adore Watchmen, parce que ça a révolutionné les super-héros à l'époque. Donc on est encore une fois en 86. À l'époque, les super-héros, ils sont très classiques. Et bien Watchmen est arrivé, il a tout cassé, il a déconstruit tous les mythes du genre, à commencer par les héros eux-mêmes. Les gardiens, en fait, sont méprisables, ils sont accros à la violence, égocentriques, commerciaux. Bref, bah, si c'était réel, ils nous feraient plus peur qu'autre chose. Et c'était l'idée du génial auteur de Watchmen, Alan Moore.
Watchmen est avant tout une réflexion sur le pouvoir. Dans le vrai monde, les super-héros seraient un peu drôles, mais ils seraient aussi effrayants, dans un sens. Quelqu'un qui met un masque et se balade dans les rues pour tabasser des criminels, c'est un justicier. On a donc imaginé le personnage de Rorschach, et on s'est demandé ce que serait une version réaliste d'un super-héros comme Batman, motivé par la vengeance. Et la réponse est simple, ce serait un taré.
Voilà, et tous les personnages sont du même acabit, complètement dingue, mais c'est justement la force de Watchmen, hein, ces héros détestables qui sont bah, bien obligés de se bouger tous ensemble pour éviter l'apocalypse nucléaire. Et tout ça tient grâce à une narration qui est vraiment complexe. Ah oui. On est très loin du super-héros classique avec un méchant, un gentil et une histoire. Là, c'est magistral, c'est alambiqué, il faut bien faire attention à toute la lecture. Il y a beaucoup de textes, une narration qui du coup est encore plus puissante, moi je trouve, avec cette nouvelle édition en 12 volumes, puisqu'au rythme de 2 tomes par mois jusqu'en juin, bah, ça laisse le temps de digérer tous les événements. un peu comme une série.
Et alors Clément, il y a eu récemment une série Watchmen, est-ce que ça a un lien ?
Oui, c'est justement l'autre intérêt pour moi de cette réédition. La série HBO vient de se terminer et ma collègue Margot Barlon nous l'avait vivement recommandé. Je ne saurais qu'appuyer ce qu'elle vous avait dit à l'époque, je vous renvoie vers son podcast. C'est une série qui est absolument phénoménale et pour mieux l'apprécier, il faut lire le comics qui sort puisqu'en fait la série se déroule en 2019, donc à notre époque, 34 ans après l'histoire originale. Et elle aborde surtout l'héritage des Watchmen, donc l'héritage de l'histoire qu'on peut lire aujourd'hui dans les comics. Rorschach, par exemple, est devenu une icône pour les suprémacistes blancs. Le docteur Manhattan a disparu et c'est un peu la panique sur Terre. Résultat, il y a surtout un élément clé de l'intrigue qui est lié directement à la fin du comics. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le comics, il y a des choses dans la série qui vont complètement vous échapper. Et c'est une bonne raison de relire cette réédition qui vient de sortir.
Ça vous parle, Patrick Chenet ?
Non.
Non. Vous n'avez pas l'histoire même, de super-héros ?
Non, même Batman, je me suis fatigué au bout du deuxième.
C'est vrai.
Le Joker, les mecs un peu déjantés, méchants,
tordu,
tout ça,
ouais.
C'est plus rigolo. Je pense que vous avez raison.
C'est plus intéressant.
Il y a aussi l'autre, là, qui est un super-héros méchant, cynique. Il y a eu deux...
Vous savez quoi ? On va le retrouver juste après la pause.
On le retrouve. Deadpool.
Deadpool, c'est plus rigolo. Une demi-heure.
D'accord. Une demi-heure. Vous restez avec nous, il reste 40 minutes. 20 minutes.
Voilà. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Patrick Chenet qui est notre invité ce matin dans Culture Média. On va revenir à son actualité dans un instant. Avant, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour. On va parler d'une série avec Clémence Olivier.
Clémence, vous allez nous parler d'une des meilleures séries américaines du moment. Elle a été saluée au dernier Golden Globes. Prix de la meilleure série dramatique, ça s'appelle Succession.
Et oui, Succession nous emmène à New York, au sommet de l'un de ses plus hauts buildings. C'est ici que se trouvent les bureaux de Logan Roy, le patron d'un empire médiatique. Cet homme conservateur, richissime et puissant, qui a bâti son empire à partir de rien, approche les 80 ans et Kendall, son fils cadet, est tout désigné pour lui succéder. Il reste seulement quelques détails à régler, un deal à boucler et une officialisation en bonne et due forme. Oui, mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu.
Tout bien considéré, je m'accorde encore quelques années.
En tant que...
Je reste en place. En tant que président, directeur, général.
Quoi ? Tu quoi ?
J'ai pas été assez clair, à moins que t'aies pas écouté, comme toujours.
Mais...
Quoi, c'est pas un drame. Je pars pas encore, mais on verra les détails ensemble.
Tu m'en avais pas parlé.
On va annoncer que t'es en pole position pour reprendre le flambeau quand le moment sera venu et que...
Quand le moment sera venu.
Ok, allons déjeuner.
Ce changement d'avis brutal du père, c'est le point de départ d'une lutte fratricide pour le pouvoir. Car au-delà de Kendall, les autres enfants de Logan, Connor, l'aîné totalement à l'ouest, Roman l'immature et Shiv, la sœur qui fait carrière en politique, tous espèrent aussi avoir leur part du gâteau. Et pourquoi pas se faire calife à la place du calife ? Ces guerres du pouvoir, ça vous rappellera peut-être une autre série également produite par HBO, c'est Game of Thrones.
Ah ouais, ça rappelle Game of Thrones, mais il n'y a pas de dragon dans Succession aussi.
Non, je vous rassure, il n'y a pas de dragon.
C'est un peu Dallas, voire Dynasty.
Il y a un peu Dallas, mais il y a un peu aussi de Game of Thrones, parce qu'on retrouve la même ambiance. La série s'attache à montrer les luttes intestines au sein du clan Roy, sur fond d'OPA et de deals financiers. Et comme dans Game of Thrones, les coups bas sont légion. Chaque personnage est prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à broyer un membre de sa famille. Mais la violence ici n'est pas physique, elle est psychologique. Ce sont les mots qui assassinent.
Il faut que tu comprennes. Après ton AVC, les actions ont chuté. Toutes nos options étaient vraiment merdiques. Mais j'ai réglé le problème grâce à un fonds privé. Voilà.
Tu es un putain d'abruti.
Aussi, pas de décor époustouflant, tout se passe en huis clos ou presque, dans la froideur des bureaux, dans les appartements new-yorkais bourgeois, voire dans les hélicoptères que les Roy utilisent aussi souvent que nous prenons le métro. Enfin, il n'y a pas un Jon Snow, un personnage presque consensuel, un héros auquel on s'attache immédiatement. Dans la série, tous les personnages sont cruels, cyniques, d'une vulgarité démesurée. En fait, ils sont tous détestables.
Et c'est ça qui vous a convaincu ?
Ben oui.
Il marchait plus mon micro. Je me disais, tiens, il y a quelque chose.
Mais oui, ça m'a convaincu, mais voilà. Il m'a fallu du temps. Il faut patienter jusqu'au 5e épisode de la saison, sur les 10 en tout, pour se faire embarquer par cette comédie noire. Mais une fois que c'est le cas, je vous assure, on devient aussi accro à la série que Kendall, le fils cadet, ne l'est à la cocaïne.
Ah, belle image.
D'abord, bravo. Car le jeu d'acteur est bluffant, même s'il n'y a pas de star ici. Les dialogues font mouche. Et puis, c'est assez captivant de découvrir ce qui se joue dans les bureaux des grands manias de la presse. Leur prise de décision parfois hasardeuse, leur mépris des employés, leur inculture, leur excès en tout genre.
Il y a aussi la série de Fox News. Là,
The Loudest Voice.
Ouais.
Sur le
vous regardez ça, vous ?
Vous regardez ça. Regardé un peu. Ouais. Mais au bout d'un moment, je me lasse parce qu'on sent trop les scénaristes, le pool de scénaristes qui se creusent la tête pour continuer à créer des événements.
Et là, en l'occurrence, est-ce que c'est inspiré de personnages existants ?
Oui, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Le créateur, Jesse Armstrong, s'est beaucoup documenté sur l'homme d'affaires Rupert Murdoch, qui possède justement la chaîne Fox, mais aussi sur le Britannique Maxwell, qui a possédé le Daily Mirror, et le patron de la Paramount, Summer Redstone. On ne peut pas aussi s'empêcher de penser à Donald Trump, et c'est ça qui rend la série encore plus fascinante. Enfin, il y a un côté assez jubilatoire à déceler les failles de cette famille de milliardaires, à les voir mener une vie pathétique. On comprend que l'argent et le pouvoir ne font pas automatiquement le bonheur.
Ah bah, du coup, comme ça, ça soulage.
Ouais, voilà, et ça nous ramène à nos vies, à nous. Plus simple, c'est sûr, hein, mais finalement pas si mal.
Ah oui, parce que vous n'êtes pas milliardaire, vous.
Et non, non.
Moi non plus. Et où est-ce qu'on peut voir cette série, Clémence ?
Alors, les saisons 1 et 2 sont à découvrir sur OCS, et la saison 3 est prévue pour cette année.
Ça vous tente, Patrick Chenet ? Merci, Clémence. Patrick, ça vous tente ?
De quoi ?
Cette série ? Non, vous l'êtes déjà, cette série.
Ah, cette série, regardez, oui. Le problème des séries, je vais vous dire. Maintenant, il y a une nouvelle tendance qui fait que même quand on soit des téléfilms casse-couilles qu'on refuse, là, il y a un ton différent, c'est plus iconoclaste, c'est plus fou, c'est plus barré, et c'est très intéressant. C'est un merci des séries américaines qui, une fois de plus, insufflent un souffle nouveau sur l'audiovisuel.
Je suis d'accord, le niveau monte.
Ah bah voilà. Hein. Donc, quelle était la question ?
La question, elle était, vous restez avec nous. Il nous reste encore 5-10 minutes ensemble.
Ah non, mais je ne sais plus quelle était la question. Mais c'est vrai.
Si la série vous tentait, en fait.
Ah,
simplement.
La série me tentait. Non, le problème des séries, c'est qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, on ne sait plus quelle choisir. Trop de séries, il va tuer la série.
Mais c'est pour ça que
je choisissais celle-ci. On est gavé dans Netflix, dans machin, et même des séries intéressantes, au bout du deuxième épisode, on lâche, on va en prendre un autre. Ouais. Donc moi j'ai arrêté. Je suis revenu sur l'écrit, sur le livre. Vous voyez,
voilà la réponse. La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Patrick Chenet sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média. Clémence Ollivier et Clément Le Saffre sont toujours avec nous, tout comme notre invité Patrick Chenet, qui sera à partir du 22 janvier au Bouffe Parisien pour le système Ribadier, un Fedo, et qui vient aussi de sortir un livre, La vie est belle, je me tue à vous le dire, et c'est sorti aux éditions Archipel.
Un livre qui parle de ses souvenirs, qui parle de beaucoup de choses, qui parle de considération, qui parle également de théâtre, et pas qu'un peu, et j'ai appris quelque chose de passionnant grâce à vous, ce qu'est un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet ? Béquet, c'est écrit B-E-C-Q-U-E-T. Qu'est-ce qu'un béquet, Patrick Chenet ?
Un béquet, c'est une scène ou un moment du film ou de la pièce écrit dans l'urgence, au dernier moment, parce que pour des raisons techniques, des raisons et qu'il faut absolument sauver le bébé.
Ouais.
C'est souvent des choses qui font date, justement. C'est écrit comme ça. Dans
exemple magistral que vous donnez dans Shakespeare.
Magistral, c'est Être ou ne pas être, qui paraît-il aurait été écrit par Shakespeare le jour de la première, une heure avant le lever de rideau, parce qu'il avait remarqué que Polonius, qui est un des acteurs majeurs de la pièce, n'avait pas le temps de se changer. Il fallait qu'il passe d'un endroit à un autre en changeant de costume. Ça demandait quelques minutes. Et quoi faire pendant ces quelques minutes ? Il s'est mis dans un coin. Et il a écrit « Être ou ne pas être », qu'il a filé donc à l'acteur qui l'a appris en une demi-heure, etc. Et c'est devenu un des fleurons mythiques du Shakespeare et du théâtre. Et ce fameux « Être ou ne pas être » qui a traversé des siècles
et qu'on étudie.
Et qui a été écrit en 3 minutes par Shakespeare, paraît-il. Voilà. Et ça, moi, j'adore cette histoire parce qu'elle est vraiment représentative et symbolique de notre métier, de la création, de ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que le théâtre, c'est-à-dire l'urgence, l'approximation.
Alors j'y pense, parce qu'il y a un documentaire l'autre jour sur les tontons flingueurs, le réalisateur dit il y a un problème, c'est que ces mecs-là, on a l'impression qu'ils s'entendent vraiment pas bien, ils sont tout le temps en train de se tirer dans les pattes, il faut faire une scène. Alors l'auteur renacle et finalement il écrit la scène de la cuisine.
C'est ça,
elle n'était pas prévue, et c'est un béquet. Je l'ai appris grâce à vous. Vous êtes toujours aussi présent avec votre association Ferdinand pour lutter contre l'alcool au volant ?
Oui,
parce que j'ai une question d'actu pour vous.
Oui, je suis toujours aussi présent. C'est-à-dire qu'il faut que je sois un peu libre. Il faut que les gens à qui je m'adresse pour faire réaliser ces clips, ces petites œuvres cinématographiques, comme je dis, soient disponibles. On va attendre. Là, on va repartir. Oui, absolument.
J'aurais bien votre avis. Il y a certains départements, il y a 2 jours, ont décidé de remonter la limitation de vitesse, de repasser de 80 à 90 km/h, notamment la Seine-et-Marne, le 77. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Vous savez, je ne suis pas un spécialiste non plus en sécurité routière. Tout ce que je sais, c'est que si on diminue la vitesse de 10 km, ça équivaut à l'économie, si je peux exprimer ainsi, de 180 ou 200 vies. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Économiser 180 ou 200 vies, économiser des drames absolument... je crois que ça vaut le coup de diminuer un peu la vitesse. Pour gagner de quoi ? 3 minutes sur une heure ?
Ouais.
Bon, ça vaut le coup.
Beaucoup plus joyeux, c'est juste une question, je vais vérifier un truc. Vous aviez fait une promesse, mais souvent les gens ne tiennent pas leurs promesses, souvent les comédiens. Vous avez promis, vous allez regarder les 64 matchs de la Coupe du Monde de foot en Russie.
Oui.
Vous l'avez fait ?
Non.
Non,
61. 61 sur 64, oui. Le pari, c'était de regarder 64.
Il est quand même génial. C'est le même gars qui nous a dit que regarder 3 épisodes d'une série, c'était trop long.
Oui,
il s'est fait 61 matchs et parfois des matchs de bouse quand même.
Oui, mais c'est pas trop long.
C'est vrai ?
Il n'y a pas de scénariste derrière qui se prenne la tête. Il y a des règles du jeu avec 22 mecs qui se défoncent pendant une heure et demie.
Parfois qui ne se défoncent pas. Merci beaucoup, Patrick Chenet. Je le rappelle, le système Ribalier, c'est un fait d'eau. Ça va démarrer le 22 janvier au Bouffes Parisien. Je vais donner les horaires du mercredi au samedi à 21h. Les matinées, c'est le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h. Et la vie est belle, je me tue à vous le dire, c'est aux éditions de l'Archipel.
Ça sort le 23, le bouquin. Simplement, ce que je voulais dire sur le fait d'eau, c'est que même aux répétitions, les quelques techniciens qui passent dans la salle où les gens hurlent de rire pendant une heure et demie, déjà aux répétitions, j'aime bien ça. Quoi.
On va s'éclater. C'est un public pas toujours facile, les gens dont c'est le métier.
Ouais.
Donc ça fait bien plaisir. Ouais. Merci beaucoup Clément et Clémence. On dirait des personnages. On dirait une sitcom. Clément et Clémence font de la radio. Merci Céline Dacosta. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Nathanaël de Rinxin et Patricia Loison pour la partie média. Ils sont sur la chaîne France Info, le canal 27. Et pour la partie culture, ce sera le comédien Hippolyte Girardot. Ravi d'avoir été avec nous. Merci encore pour les audiences. À demain.
Merci Philippe Vandel. Dans un instant, vous retrouvez Anne Romanoff pour votre émission Ça fait du bien. Vous la retrouvez avec toute sa bande et leurs invités aujourd'hui, Stéphane Plaza, Alexis Michalik et Pauline Bression sur Europe 1. We'll be right back.